Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon décortique deux récents rounds dans l'intéressant combat où s'oppose la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, et le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Le prof Taillon estime qu'une sorte de fondamentalisme de l'indépendance judiciaire s'est développée et qu'il fait croire aux juges qu'ils peuvent et doivent en tout temps échapper aux lois adoptées par les élus. Oh, et saviez-vous que si le projet de loi 8 est adopté, ben les notaires pourront accéder à la magistrature. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec un ami du bureau parlementaire.
Go, go, go! Go, go! Gagnon!
Ouais, donne-les ton show.
Mais bonjour Marc-André Gagnon.
Bonjour Antoine.
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Commençons par la partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne. C'est parti. Le Parti libéral du Québec a annoncé et présenté son candidat.
Oui, et le gouvernement surtout a déclenché l'élection. Donc, on sait maintenant que l'élection partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne, donc l'ancienne circonscription de Dominique Anglade, ben, elle aura lieu, cette élection complémentaire, le 13 mars prochain. Et le Parti libéral, ben, ce matin, avait justement prévu l'annonce de leur candidature. Donc, Christopher Beniger, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui va porter donc les couleurs du Parti libéral du Québec. Lui, il était candidat à la dernière élection générale dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, donc contre Manon Massé.
Faut pas se mêler, hein? Saint-Henri-Sainte-Anne, Sainte-Marie-Saint-Jacques. Moi, ça m'arrive de mêler.
Ah ouais, non.
Plein de saints.
Moi-même, c'est ça, exact. Donc, faut faire attention de les démêler. Et on a entendu parler beaucoup, en fait, depuis ce matin de ce candidat, donc comme étant celui qui a terminé deuxième contre Manon Massé, donc
ah ben oui.
le 3 octobre dernier, mais... Bon, deuxième derrière Québec solidaire. Quand on prend le temps de regarder les résultats dans le détail, le portrait est quand même légèrement différent. C'est-à-dire que Manon Massé, elle a obtenu plus de 10 000 votes et ce candidat libéral avait obtenu 3 600 votes. Quand on regarde le Parti québécois et la CAQ, ces partis-là avaient récolté eux aussi un peu plus de 3 000 votes. Donc, mm-hmm. Autrement dit, Manon Massé, à elle seule, avait obtenu pratiquement autant de votes que ses trois principaux adversaires réunis. Donc, est-ce qu'il avait vraiment chauffé Manon Massé pour se retrouver deuxième derrière Québec solidaire? Ben, pas vraiment. Puis, tu sais, on va se faire une confidence entre nous, là. Quand un parti t'envoie normalement te battre contre le chef d'un autre parti, bon, Manon Massé n'est pas chef, mais elle est quand même co-porte-parole. Généralement, tu sais que tu vas perdre. Est-ce que c'est ça que le Parti libéral se dit dans ce cas-ci? Ben, j'ose espérer que non, parce que c'est quand même un comté que les libéraux ont toujours réussi à conserver. Là, et là, je parle de Saint-Henri-Sainte-Anne, donc
oui,
l'ancien comté
de
Dominique Anglade.
Ils sont arrivés quatrième dans le nombre pour le nombre de voix partout au Québec. Et dans Saint-Henri-Sainte-Anne, ils ont quand même gagné.
Exact. Donc, c'est libéral depuis la création de la circonscription en 1994. Alors voilà, mais quand même, ben, un candidat qui est pas très connu, il l'a reconnu lui-même d'ailleurs pendant la conférence de presse.
Oui, absolument. Et il a comme lancé des fleurs aux journalistes qui étaient présents. On peut l'écouter.
Et j'aimerais juste dire un petit mot qui n'est pas dans mon speech. C'est un honneur d'être avec vous aussi, les journalistes. Parce que les journalistes, vous nous gardez chaque jour au défi. Et c'est important d'être mis au défi, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Vous savez, on n'a pas eu l'élection qu'on voulait, mais on est quand même le parti d'opposition. Et là aussi, on a été mis au défi et on s'améliore quand on est mis au défi dans la vie. Donc, je voulais le partager avec vous, ça.
Ah, Marc-André, on améliore, nous, les politiciens, on est là pour ça. On le prend au mot.
Voilà. Alors, en tout cas, assurément, il a compris qu'il a tout un défi devant lui.
Oui.
S'il aime être mis au défi, ben, ce sera un défi quand même de battre le solidaire Guillaume Clich-Rivard, qui est un avocat spécialisé dans le droit de l'immigration,
oui.
Qui est assez connu. Et tu te souviens, Antoine, moi, pendant la dernière campagne électorale, j'ai fait la dernière moitié de campagne avec Québec solidaire et Gabriel Nadeau-Dubois est allé vraiment souvent dans Saint-Henri-Sainte-Anne, alors que la tradition, c'est qu'un chef de parti n'aille pas faire campagne dans la circonscription d'un ou d'une autre chef. Gabriel Nadeau-Dubois a décidé de rompre avec cette tradition-là pour faire campagne avec son candidat, Guillaume Clich-Rivard, qui est encore sur les rangs. On comprend que Québec solidaire mise fort pour une victoire, donc, dans cette circonscription. Donc, ça reste à voir. Ça va être intéressant. La CAQ, de son côté, mise sur un ex-président de son aile jeunesse, Victor Pelletier, qui est âgé de seulement 21 ans. Je dis seulement 21 ans parce qu'il a vraiment l'air jeune. Tu sais, que quelqu'un, à la blague tout à l'heure, voyait une photo qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Puis, c'était à se demander presque si c'est pas François Legault qui lui avait prêté un veston un peu trop grand pour lui. Mais blague à part, donc, un jeune candidat et il reste donc le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec à faire connaître qui sera leur candidat ou leur candidate. Ça aurait peut-être une opportunité pour Éric Duhaime de se présenter, d'essayer de se faire
élire. Il veut pas. De finir. Non.
Et il ne veut
demandé,
pas.
J'ai demandé, il veut pas. Il dit que c'est pas un comté prenable pour le Parti conservateur.
Il n'était pas prenable. Donc, ouais. Ils ont fait les calculs et ils en sont arrivés à la conclusion que c'était pas une bonne idée. Alors, quand même, tout ça pour dire que ce sera une course intéressante à suivre.
Oui, M. Christopher Benninger, on va l'écouter. Il nous explique pourquoi il aime le Québec.
Ce qui est passionnant avec le Québec, c'est que c'est notre audacité. Notre audacité, toujours penser en avant, de construire des grandes choses, d'aller vers un futur qui est toujours plus encourageant et plus inclusif. Et c'est pour ça que je suis revenu au Québec et c'est pour ça que j'y reste et qu'on y reste.
Parlant de construire des choses, il a été aussi mêlé à un projet de moto électrique, M. Benninger. En tout cas, tout un personnage. On va voir si ça va fonctionner pour lui dans Saint-Henri-Saint-Anne le 13 mars.
Et le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, lui, essaie beaucoup de remettre de l'avant l'enjeu de la loi 96. Alors, voilà, et surtout de
oui, la loi qui refait la loi 101, et vraiment, les libéraux ont voté contre, mais eux autres, ils insistent pour dire que Québec solidaire a finalement voté pour.
C'est ça, et que ce faisant, Québec solidaire a cessé d'être solidaire ce jour-là, en appuyant le projet de loi de la CAQ. Donc, on sent que Marc Tanguay essaie vraiment de faire du projet de loi 96 un enjeu de cette élection partielle. Est-ce que ça en sera vraiment un maintenant? Ça reste à voir, et aussi, selon moi, l'enjeu principal dans toute élection partielle, c'est à savoir est-ce que les gens vont aller voter. Parce que même à l'élection générale, c'est quoi? Bien sûr, souvent 60% des électeurs qui prennent la peine d'aller aux urnes donc pour voter. Lors d'une élection partielle, c'est encore plus difficile.
Rapidement, reparlons du chemin Roxham où il y a des voyages gratuits là, qui sont donnés par la ville de New York.
Exact, c'est le New York Post qui nous a rapporté ça ce matin. Donc, des migrants qui sont récemment arrivés aux États-Unis. En fait, ils sont tellement nombreux qu'on est rendu au point où la ville de New York leur donne des billets d'autobus gratuits pour qu'ils puissent se rendre vers Plattsburgh pour éventuellement atteindre le chemin Roxham et traverser la frontière. On va certainement entendre parler de ce sujet-là dans les prochains jours. La semaine dernière, c'est la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qui a, échappé le fond de sa pensée en disant, attention, si on ferme le chemin Roxham comme le PQ le demande, il y a un autre chemin Roxham qui risque de s'ouvrir un peu plus loin, et là, les conditions risquent d'être dangereuses pour les migrants. Elle a dû faire volte-face, revenir devant les journalistes pour remettre la pâte à dents dans le tube.
Puis aujourd'hui, elle a parlé du chemin Roxham encore, là, puis elle a dit... c'est juste la meilleure preuve pour nous convaincre qu'il faut renégocier l'accord sur les pays tiers sûrs.
Tiers sûrs, avec les Américains. Mais là, bon, c'est dans la cour d'Ottawa et ça tombe bien. Il y a justement les premiers ministres des provinces et des territoires qui viennent tout juste d'arriver à Ottawa. Demain, rencontre importante pour parler des transferts de santé. Mais on sait aussi que François Legault a sur son ordre du jour à lui le sujet du chemin Roxham, évidemment, parce que lui, sa position historique a toujours été de dire il faut fermer le chemin Roxham et Ottawa doit nous rembourser toutes les sommes de ce que ça nous coûte ensuite pour prendre soin des migrants comme on doit le faire. Et justement, Mme Fréchette annonçait aujourd'hui avec la ministre Chantal Rouleau une somme de 3,5 millions de dollars en aide d'urgence pour les organismes communautaires qui soutiennent les nouveaux arrivants, dont les migrants. Entre autres, ça coûte cher là, quand même tout ça. Alors, un dossier qui est à suivre et certainement... Pour revenir à la rencontre fédérale-provinciale, les attentes sont élevées hein, pour un potentiel règlement en lien avec les transferts en santé. Est-ce que ça va vraiment se concrétiser? Moi, aux dernières nouvelles, au moment où on se parle, Antoine, le gouvernement Legault n'avait encore eu vent d'aucune proposition concrète, c'est-à-dire il n'avait reçu aucune proposition, aucun chiffre, donc on a bien hâte de voir ce que...
Oui, puis le Globe and Mail disait ce matin qu'on était sur le point d'avoir un accord.
Oui, en tout cas, on peut le souhaiter parce que ça fait quoi, une trentaine d'années, donc cet enjeu-là n'est pas réglé et qu'Ottawa, d'année en année, une part du gâteau de moins en moins importante de ce que ça coûte pour financer les soins de santé au pays. Puis on l'a bien vu avec la pandémie, toute l'importance que ça a. Les défis sont nombreux aussi dans ce domaine.
On conclut sur un sujet qui va pas mal t'occuper cette semaine, les retraites.
Oui, exact. Est-ce qu'on doit repousser l'âge d'admissibilité au régime des rentes du Québec? En fait, la question est super importante et ce sera étudié en commission parlementaire. Actuellement, il faut avoir au moins 60 ans afin de pouvoir commencer à retirer ses prestations de retraite là, de la RRQ. Et la proposition qui est mise sur la table par Retraite Québec, c'est de repousser cet âge minimal d'admissibilité à 62 ou à 65 ans. Donc, autrement dit, de prendre sa retraite plus tard. C'est un enjeu qui touche énormément de gens. Il y a des syndicats, des experts qui vont se faire entendre en commission parlementaire. C'est à compter de mercredi. Et ultimement, c'est le gouvernement qui devra trancher sur cette importante question. On a vu en France à quel point l'idée de repousser l'âge de la retraite, ça déchire les esprits. Il y a des manifestations monstres du côté de la France. Honnêtement, il ne faut pas s'attendre à ce même phénomène au Québec, puisque la réalité est complètement différente. D'abord, la situation des régimes de retraite, le fonctionnement du système n'est pas le même. Et ici, on a suffisamment d'argent, semble-t-il, pour assurer les versements des prestations pendant les 50 prochaines années.
Et ici, Marc-André, c'est capitalisé. C'est-à-dire qu'on a un magot. Là-bas, c'est vraiment les jeunes qui paient les retraites des vieux, c'est directement. C'est vraiment une autre situation.
Et ici, les prestations sont indexées aussi à l'inflation. Mais en tout cas, différentes solutions qui seront proposées. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette idée de rehausser l'âge minimal d'admissibilité au RRQ. Parce qu'en fait, essentiellement, c'est le PQ, mais aussi la FADOC. Je sais que tu affectionnes plus particulièrement, Antoine.
Je suis membre depuis 4 ans.
Voilà. Donc, qui s'oppose à ce rehaussement de l'âge minimal pour retirer du RRQ, parce qu'ils craignent, en fait, pour ceux qui ont travaillé dur toute leur vie puis qui arrivent à 60 ans, puis pour des raisons de santé ou même pour des raisons parfois psychologiques, doivent prendre leur retraite dès l'âge de 60 ans. Alors, vraiment, un débat qui va être intéressant qu'on pourra suivre à compter de mercredi jusqu'à la semaine prochaine.
Ah bon, on va peut-être s'en reparler, Marc-André Gagnon. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.